réaction, commentaire. C'est la libre antenne BTLV.
Présence nocturne, observation d'OVNI, ombre mystérieuse, foudre en boule, cylindre volant, ce sont les témoignages que vous allez découvrir dans cette nouvelle libre antenne BTLV. 1h30 pour passer de l'autre côté du miroir, celui du mystère et de l'inexpliqué. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV, alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bellanca.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Sans jugement ni censure, c'est ainsi que nous vous accueillons tous les lundis en direct dans la libre antenne de BTLV. Le principe est simple, vous avez vécu quelque chose d'étrange, d'ufologique, de paranormal, venez nous en parler. 01 86 22 21 20 ou redaction@btlv.fr. Dans les deux cas, quel que soit le moyen que vous choisissez pour nous contacter, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin que l'on puisse vous rappelez avec moi, et il marque son grand retour, l'homme des zones paranormales, c'est Jocelyn Fekeler. Salut mon Jocelyn.
Salut Bob.
Ravi de t'accueillir. Je te souhaite une très très belle année.
Oui.
Voilà, deux visu, parce qu'en fait on s'est eu, on a parlé.
On s'est pas vu.
Exactement. Moi, je suis ravi de t'accueillir. Je te souhaite vraiment le meilleur.
Une bonne année à tous les, à tous ceux qui nous suivent.
Bah ouais. Et puis pour toi également le meilleur. Il est celui qui fait le lien entre vous et nous, c'est Valentin Ricard. Salut Valentin.
Salut Bob.
Ça va bien?
Très très bien.
Bon, vous allez pouvoir bien évidemment commenter tout ce qui va être dit ici ce soir. Poser des questions si vous le souhaitez et il s'en fera le relais. Alors je rappelle juste que je parlais des zones paranormales de Jocelyn Fekeler. Vous pouvez vous procurer cet ouvrage en vous abonnant, on vous l'offre. C'est pas compliqué, on fait une opération incroyable. Vous vous abonnez au comptant à BTLV, vous recevez deux bouquins, le Zone paranormale de Jocelyn Fekeler et le OVNI 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas, d'Egon Kragel. Voilà pour cette belle opération. Le programme de la semaine, avant d'accueillir dans un instant Violette pour évoquer des phénomènes paranormaux, des présences nocturnes particulières, eh bien le programme s'annonce encore une fois magnifique, hein, le milieu cosmique juste après la libre antenne si vous en voulez encore. Claude Delarose sera là. Mardi, regardez ce qui vous attend sur BTLV. Les connus face à l'inconnu avec quelqu'un qu'on adore. Surtout Jocelyn et moi, Franck Leboeuf, ancien international de football, champion du monde et puis devenu comédien et qui cartonne bien. On est ravis qu'il ait accepté l'invitation de Sandrine Chopin pour répondre. Et vous allez voir, il est bouddhiste. On en aura un extrait tout à l'heure. Il est très ouvert sur ces sujets, mais vraiment, et même quand il était footballeur, il est allé voir des gens assez particuliers. C'est à découvrir dans l'émission, c'est génial. Autre programme qui vous attend, regardez, rencontre avec un enquêteur ufologue. J'ai eu le plaisir de recevoir une nouvelle fois Marc Saint-Germain, je l'avais déjà eu, hein. Il sera là mercredi, et d'ailleurs, il y aura mercredi aussi les affranchis de l'info, hein, extraterrestres. La théorie des anciens astronautes tient-elle la route avec Anton Parks, qui pour des raisons de Covid, sera en duplex avec nous. Mais dans tous les cas, le rendez-vous est pris mercredi 19h sur tous les réseaux sociaux. Deux rendez-vous jeudi. Regardez, La forêt de Brocéliande, c'est un nouveau numéro des Mystères de France, de David Gallet. Et puis jeudi également, Apprenez le langage des astres pour mieux maîtriser votre destin. C'est une masterclass proposée par Muriel Siron, astrologue maison bien sûr, et c'est présenté par Sandrine Chopin. Et puis vendredi, on terminera en beauté avec la revue de presse du mystère que j'aurai le plaisir de vous présenter avec à mes côtés Valentin et Thomas. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. 01 86 22 21 20, on accueille comme il se doit notre premier témoin et c'est une femme, c'est Violette, elle est avec nous. Bonsoir Violette.
Bonsoir Bob, bonsoir à toute l'équipe. Donc, je suis contente de vous raconter ma petite histoire qui est un petit peu bizarre. J'espère que vous pourrez peut-être m'éclairer.
Écoutez, en tout cas, on est ravis de vous accueillir. On vous souhaite déjà une très très belle année. Vous nous appelez d'où, Violette?
J'appelle de Paris. Je suis pas très loin à Vol d'Oiseau de chez vous, en fait, de BTLV.
Alors c'est ça le problème, c'est qu'à Paris, à Vol d'Oiseau, c'est très court, mais en voiture ou en scooter, c'est très très long.
Surtout en ce moment.
Voilà, surtout en ce moment. Alors Violette, racontez-moi ce qui vous est arrivé.
Alors, en fait, c'était à la fin du premier confinement, donc en juin 2020.
Ouais.
C'est une vie comme toutes les autres. Chez moi, je dors normalement et puis je commence à être réveillée par mon radio, vous savez, Éveil Lumière. Je ne sais pas si je peux citer une marque, mais je pense qu'on est beaucoup à l'avoir. Philips, quoi. C'est un petit réveil rond qui est tout simple. Et donc, je commence à être réveillée précisément, sauf que donc Il y a le réveil aube qui se met progressivement en route. Et donc là, je commence à être éveillée et je vois que ça sonne. La radio se met en route à 3h33, quelque chose comme ça. Mmh. Et là, je suis comme assez étonnée parce que je suis censée me réveiller à 6h45. Donc au début, je me mets en route un peu comme tous les matins. Et puis je me dis, voilà, ça pique un peu, je me sens pas trop réveillée. Et effectivement, on est en plein milieu de la nuit. Et là, je regarde mon mari qui dort. Voilà, je me dis, bon, je me recouche, mais je suis quand même, si vous voulez... Je me pose quand même certaines questions, surtout que je vérifie sur mon portable et c'est bien la bonne heure, si vous voulez, au milieu du réveil. Et c'est un réveil qui est assez simple. En fait, vous avez l'heure au milieu. Mmh. À gauche, vous avez une présélection horaire 1 de réveil. Donc là, c'était 6h45. Et à droite, c'est le 8h que je mets le week-end. Voilà, parce que je suis un peu plus large. Et si vous voulez, il n'y avait rien qui avait changé. Donc je me rendors. Je me réveille à 6h45, je raconte tout au petit déjeuner à mon mari qui trouve ça étonnant. Je demande à ma fille qui a une dizaine d'années si elle n'a pas bidouillé mon réveil. Et puis elle me dit non. Et honnêtement, ce n'est pas trop son truc hein, parce que c'est quand même assez compliqué de changer d'horaire. Je ne sais pas, pour ceux qui ont ce modèle-là, voilà, ça ne se fait pas en 2 secondes.
Ouais.
Et donc ça, la journée se passe. Et puis on arrive à la seconde nuit. Hein. Et la seconde nuit, donc je fais un check avant, je regarde, je vois bien 6h45, voilà, je me dis ce coup-ci, tu vas dormir. Et il y a la même chose qui se reproduit, donc c'est-à-dire, et là, évidemment, j'ai le sommeil qui est plus léger.
Ouais.
Et je réveille mon mari qui, là, pour le coup, se réveille vraiment parce que j'en avais parlé la veille, petit déjeuner.
Ouais.
Et là, il dit effectivement, c'est bizarre, quoi. Alors, moi, je commence vraiment, je me sens pas bien. En fait, je sens qu'il y a une atmosphère. Alors, est-ce que j'ai peur, vous voyez? Est-ce que c'est subjectif? Mais honnêtement, je suis pas bien. Je n'ose même plus regarder mon réveil. Je me mets en chien de fusil de son côté. Le réveil est à gauche, mon mari est à droite. Et là, je sens comme une sorte de chair de poule sur mon bras gauche et comme une caresse. Quelque chose, voilà, c'est bienveillant. Et je regarde mon mari, voilà, il me dit, de toute façon, il ne peut rien t'arriver, c'est vrai, si vous voulez, il n'y a personne physiquement dans la chambre, il n'y a pas de cambrioleur. Mmh. Lui, c'est marrant, il croit à toutes ces choses-là, mais il n'a pas peur, et moi, je suis assez impressionnée, surtout si c'est la nuit. C'est pas tout, parce qu'après, mon mari se rendort, il a un super sommeil, moi, c'est un peu moins le cas, mais voilà, c'est ça. Et donc, vers 4h du mat, je suis sur le point de me rendormir. Donc, j'ai laissé la porte ouverte de ma chambre, ça donne sur un couloir, et j'entends, donc je suis en appartement, et j'entends 3 gros booms dans ma porte d'entrée qui est blindée. Et si vous voulez, c'est pas un boom localisé comme si quelqu'un toquait à la porte. Et donc, je marche dans le couloir, je vais regarder dans l'œil de bœuf, il n'y a rien d'allumé. Je sais que mes voisins du dessus sont des retraités qui sont en vacances, ils sont partis plus tôt. Il n'y a pas de fiesta, vous voyez, je suis dans un camp plutôt pépère. Mmh. Et donc voilà, donc après, je retourne me coucher, je ne dors pas beaucoup. Et ce qui nous trouble, en fait, donc là, avec mon mari, on commence un peu à bader, on se dit, oui, c'est un peu bizarre, surtout que le réveil est toujours bien réglé. Mmh. Et jusqu'alors, il ne nous a jamais fait défaut. Et donc, le lendemain, je vais chercher mon courrier, comme tous les matins, et je tombe sur une lettre épouvantable. Voilà. Je ne peux pas en parler, mais quelque chose de malveillant.
Alors, attendez. Quand vous dites une lettre épouvantable, c'est-à-dire qu'une menace, quelque chose d'extérieur,
ouais.
D'accord, mais qui vient de quelqu'un que vous connaissiez ou pas du tout?
Voilà.
D'accord.
Donc, je ne peux pas trop en parler à l'antenne, ouais. Mais voilà, quelque chose que personne n'aimerait recevoir et quelque chose de lâche et malveillant, on va dire.
D'accord.
Et donc là, on est bouleversé par ce courrier avec ma famille. On est bouleversé, donc on décide de prendre un petit peu de repos. Je mets ma fille chez mes parents et puis on part se promener avec mon mari en voiture. Mmh. Ça, si vous voulez, c'est J+1, J+2.
Oui.
Et là, dans la voiture, donc on est toujours avec mon mari, voilà, on est toujours en train d'accuser le coup de ce courrier épouvantable. Et je dis comme ça, quels sont les gens qui peuvent faire cela à un enfant? Et là, je regarde mon mari en lui parlant, on est dans la voiture, et sur son volant, et là, l'autoradio s'allume alors qu'il est éteint, mais spontanément, quoi. Et là, il y a une voix de femme qui dit, personne ne devrait faire cela à un enfant, un peu, vous savez, une voix de femme qui serait interviewée quelque part dans une émission. Et en plus, c'était une chaîne de radio qui n'est pas dans nos présélections, quoi. C'est une chaîne un peu ringarde. Et ça s'éteint. Et là, on se regarde, on se dit, oula, il y a un truc, si vous voulez. Ouais, ouais. On était. Alors, moi, donc j'ai témoigné aujourd'hui. Je pense pas avoir oublié trop de détails, mais parce que je pense. On y a beaucoup réfléchi, hein, ça fait un an et demi. Mais on s'est dit avec mon mari que parfois dans la vie, en fait, lorsqu'on traverse certaines épreuves, je serais pas étonnée, voilà, qu'on ait des coucous de l'autre côté. Alors, bon, même si ça m'a fait très peur, je pense que c'est un coucou qui est assez maladroit. Enfin, de l'autre côté, parce que je suis allée voir entre-temps une médium que je connais. Alors, elle m'a pas donné de carte de visite ni quoi que ce soit. Il s'agit d'un tel ou qui que ce soit. Elle l'a vu comme quelque chose de bienveillant sur le fait qu'on veillait sur nous pour affronter, voilà, cette épreuve. Voilà, donc c'est. Après, mais... voilà, je sais pas si vous avez eu des témoignages comme celui-ci.
Jocelyn. Il y a plein de choses à dire, en fait.
Moi, ce que je trouve, avant que, que tu y ailles, ce que je trouve dingue, c'est qu'en fait. C'est comme si, puisque vous dites, vous avez la sensation que c'est peut-être un petit message de l'autre côté, c'est comme si on vous avait prévenu que vous alliez recevoir, parce qu'il y a cette première nuit, deuxième nuit, après, c'est au lendemain de la deuxième nuit que finalement que vous recevez ce truc. Voilà, c'est ça qui est fou.
Alors, oui, non, mais c'est un truc de dingue. C'était comme si, on se l'est dit aussi, je me suis, a posteriori, je me suis dit, bah, ça voulait dire, oui, t'inquiète pas, a posteriori, oui, on était là pour te faire accueillir, voilà, cette horreur, il fallait recevoir. Ouais. Ce qu'on s'est dit, et c'est vrai que le coup de la radio, on a trouvé ça dingue. Hein. Si vous voulez, c'était 2 jours plus tard, et voilà, vous voyez, j'en ai encore des frissons, je suis encore émue. Et voilà, donc je me suis dit, voilà, je le vois comme quelque chose de bienveillant, alors je ne sais pas voilà, de quoi il s'agit, honnêtement. Quand j'en ai parlé à une médium, voilà, elle m'a pas menti, elle m'a pas dit, tiens, c'est le colonel Boutard qui vous a appelé pour vous prévenir, quoi que ce soit, mais elle m'a dit, non, c'est, t'inquiète pas, ce sont des signes positifs, voilà, en gros, vous allez être aidé. Voilà.
Après la radio, le message à la radio, ça s'est arrêté ou il y a eu d'autres phénomènes étranges?
Alors, ouais, j'en avais parlé à Valentin, alors je sais pas si c'était pas concomitant. Alors, on a quand même des trucs bizarres dans ce couloir. Alors, c'est un immeuble super récent et tout est neuf. Hein. Et il y a une nuit, en fait, on a été réveillés par un fracas. Un fracas, alors on se dit, oh là là, il y a un volet qui est tombé. Non, en fait, on sort, on ouvre la porte de notre chambre et on va dans le couloir. Il y avait 5 cm d'eau, voilà, comme dans le Titanic. Et en fait, c'était un truc de dingue, c'était le tuyau d'arrivée d'eau du lave-main qui est dans mes WC, dans le couloir, qui avait lâché, alors qu'il a quoi, 5 ans. Donc le lendemain, on a couru, on a eu de la chance parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de dégâts. Ouais. Voilà, le parquet a résisté, heureusement. Et mon mari, là, pour le coup, qui prend pas trop à ces choses-là, dit là, on a vraiment un truc, si vous voulez, l'entrepreneur qui nous a refait l'appartement, enfin, c'était un robinet sérieux. Et c'était coupé, si vous voulez, comme si, je sais pas, comme si ça avait été scié complètement. Quoi. Ouais.
Comme s'il y avait eu un acte de malveillance, en fait, c'est ça.
Exactement. Mmh. Et puis, je ne vous dis pas les conséquences sur une arrivée d'eau d'immeuble, ça va très vite. Hein. Et voilà. Et donc j'ai rappelé cette médium qui m'a dit que l'eau purifiait. Alors, bon, moi, j'étais plus en train d'éponger, si vous voulez, ma peinture. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça.
Bon.
Pour
l'eau, j'avoue, je ne sais pas. Alors, avant, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le premier signe un peu étrange, c'est ce réveil à 3h33, c'est ça?
Ouais,
je me trompe pas. Et deux nuits de suite, à 3h33.
Deux nuits de suite, ouais. Exactement. Bon, alors, et après, il n'y a plus rien eu.
Oui, mais alors, c'est ce qu'on appelle des chiffres miroirs. Alors, il y a des gens qui n'y croient absolument pas, hein, qui pensent que c'est une coïncidence. Il y a d'autres gens, c'est pour ça que je le dis avec des pincettes, hein, il y a d'autres gens qui pensent que quand on voit des chiffres miroirs, ça veut dire quelque chose, c'est symbolique. C'est comme si un peu l'univers vous faisait signe, vous disait quelque chose. Et là, effectivement, vu que c'est ensuite que vous recevez votre lettre, on pourrait toujours imaginer, hein, je le dis aussi comme ça, on pourrait imaginer qu'on vous a envoyé un petit avertissement, bienveillant, hein, bien sûr, c'est pas méchant, bienveillant, vous disant, là, il va peut-être se passer quelque chose.
Ouais.
Alors, moi, j'ai regardé rapidement, parce que je ne suis pas un spécialiste des chiffres miroirs, mais le chiffre miroir 3h33 est associé à un ange qui s'appelle l'ange Lovia. Alors, vous irez regarder sur Internet si ça vous intéresse. Et c'est le symbole de l'instinct et de l'intuition. Ah. Voilà, je vous le dis juste comme ça. C'est une petite piste. Hein. Attention, je le mets avec des grosses pincettes, bien sûr. parce que c'est là on est dans la croyance, on n'est pas du tout dans la science. Mais c'est voilà, ces heures miroirs, en tout cas, les gens voient beaucoup et souvent ça quelque chose. Après, sur les phénomènes qui se déclenchent, moi j'ai envie de vous demander, vous étiez dans quel état d'esprit ou quel état, même avant les chiffres miroirs, c'est-à-dire à cette période, est-ce que vous étiez bien dans votre vie, dans votre tête?
Bah, on était angoissés, hein, je ne vous le cache pas. Voilà, on est dans un contexte un peu compliqué. Bon. Et donc, peut-être l'histoire de l'eau. Hein, peut-être que, de l'angoisse chez nous, je ne sais pas.
Il se peut aussi. Alors là, on rejoint des choses que moi, je connais un peu plus, qui sont ce qu'on appelle les esprits frappeurs et les choses comme ça.
Parce qu'il y a un enfant dans votre... Vous avez un enfant?
Moi, je pensais peut-être même plus à vous, vous voyez. Quelque part, si vous étiez très très stressé, très perturbé, il y a peut-être quelque chose qui s'est déclenché. Parce que les liens, c'est vous qui avez vu les chiffres miroirs, les lettres vous sont destinées. Voilà, il y a plein de choses. Je ne sais pas si ces petits phénomènes un peu étranges ou un peu. Je pense au coup dans la porte, les choses comme ça. Après, on ne peut pas le prouver.
C'est toujours contestable. Tout est contestable, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant là, c'est l'enchaînement en fait des choses. La radio qui se déclenche toute seule dans la voiture.
Ça peut être vous qui déclenchez la radio toute seule. Mais pourquoi, je n'en sais rien.
Et la voix qui lui dit, on ne fait pas ça à un enfant.
C'était comme si on nous répondait, ça ne nous est jamais arrivé quelque chose de pareil. Hein, je vous dis honnêtement.
Non, c'est sûr que c'est déroutant.
Et mon mari, était ici, il était vraiment ici. Je ne sais pas. Alors après, moi, je trouve ça quand même super bienveillant parce que on sait quand même, moi je vous dis, quand j'ai senti la petite caresse sur mon épaule, c'était bienveillant, gentil.
C'est pour vous rassurer.
Donc je me dis, c'est peut-être des grands-parents qui m'aident, vous voyez, de l'autre côté. Je me suis comme, je me suis dit, voilà, pour me rassurer. Et voilà, j'ai voulu témoigner parce que parfois dans la vie, on a des coups durs. Et je pense qu'il faut peut-être être attentif à des petites synchronicités
Exactement. Écoutez, en tout cas, Violette, merci d'avoir pris le temps de venir nous raconter cette histoire. Depuis, tout va bien?
Écoutez, pour le moment, il y en a signalé. Vous rappellerai.
Vous nous rappelez si jamais il se passe quelque chose. Mais dans tous les cas, tant mieux pour vous. Et on vous souhaite une très, très belle année 2022. Que le meilleur, bien sûr. Tiens, vous voulez regarder BTLV sur votre portable? C'est possible.
Pour avoir accès à BTLV via un Android, il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur Internet. Vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche. Ensuite, vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran, puis vous cliquez sur « Ajouter » sur l'écran d'accueil. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter » et l'onglet « BTLV » apparaît comme par magie sur votre écran. Il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr.
Et voilà, ainsi vous pourrez nous regarder. Vous êtes 70% des abonnés et de ceux qui nous suivent à regarder BTLV sur vos mobiles. Alors certains nous disent, il n'y a pas l'appli, il y a mieux, il y a le site mobile. Justement, on vient de vous expliquer. Il y a le tuto Android, iPhone sur, btlv.fr sur la homepage. Et il y a même le tuto Chromecast. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure pour regarder sur la télévision. Valentin.
Eh bien, Bob, sur les réseaux sociaux, ils sont toujours aussi nombreux, hein, et puis ils arrivent au fur et à mesure. Beaucoup de bonsoir, beaucoup de personnes qui te saluent également, Jocelyn. Sur le YouTube, on a Viviane Delange qui, elle, vient du Québec et qui nous souhaite bonne soirée, une bonne émission. Il y a aussi Julia qui était là lundi dernier, qui elle aussi nous passe le bonsoir.
Était au Québec aussi?
Alors Julia, non. Non. Et puis sur Facebook, nous avons aussi Joseph Sylvie Mazzala qui, elle, nous souhaite un bonsoir depuis l'Italie.
Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à réagir à ce qui est dit, hein, bien évidemment, ici. Si vous avez vécu des choses aussi assez particulières, vous pouvez nous en faire part, soit dans le chat ou alors au 01 86 22 21 20 et ou à redaction@btlv.fr. Dans un instant, on va parler d'OVNI avec Anthony. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que Jean-Patrick Portal est animateur sur BTLV. C'est un auteur, enquêteur sur les grands faits mystérieux. Et bien cette fois-ci, on ouvre la page du Graal et on est parti à sa recherche.
On sait que la notion du Graal apparaît dans un des derniers moments de la vie du Christ. Lorsqu'il réunit ses apôtres, juste avant de se faire arrêter, c'est la Pâque, ils vont donc justement faire ce repas pascal, hein, ce fameux repas, dans lequel Jésus va justement partager le pain, partager le vin, et le vin est porté dans un calice, et ce calice serait le Graal. Si le Graal devient un concept, l'idée qu'il y ait une descendance du Christ pourrait être ce Graal.
D'accord.
Alors maintenant, peut-il y avoir une descendance du Christ ? Alors en effet, là on revient sur le concept de Marie-Madeleine, puisqu'on voit dans les évangiles apocryphes que Marie-Madeleine serait la compagne du Christ. On nous parle bien de celle que Jésus aime le plus. Mmh. Si en effet, il y a la réelle symbolique dans la scène de Léonard de Vinci. Mmh. Il y a déjà un problème avec ce personnage qui serait Saint Jean, qui est vraiment très 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 féminin. Là c'est vraiment, il présente vraiment une femme. L'intérêt de ça, c'est de se dire, si Léonard de Vinci représente ces choses-là telles quelles, c'est pas sa propre origine, son propre sœur. C'est qu'il a de l'information ou il a une connaissance. Mm-hmm. Donc on peut penser que Léonard de Vinci pouvait faire partie d'une lignée de connaisseurs, de connaissants, d'un vrai fondement de cette religion.
À la recherche du Graal, Jean-Patrick Pourtal, magnifique émission à votre disposition. Alors, bien sûr, c'est la disposition des abonnés et on rappelle que jusqu'à la fin du mois, vous pouvez, si vous vous abonnez, repartir aussi en cadeau avec deux ouvrages. OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas et celui de Jocelyn F. Keller. Zone paranormale, 01 86 22 21 20. Anthony est avec nous. Bonsoir Anthony.
Bonsoir, merci beaucoup.
Ravi de vous accueillir, Anthony.
Merci.
Dites-moi,
bonne
Anthony.
Année.
Bah oui, à vous aussi. Vous nous appelez d'où, Anthony ?
De Grenoble.
Grenoble. Ah, ok. Je sais que j'ai une copine qui a mis la semaine dernière 4h30 pour descendre de la montagne et atteindre Grenoble. Mmh. Et elle a mis 14h30 pour rentrer à Paris, donc de la montagne. Je pense que c'est une ville qui est souvent embouteillée, hein, quand même, Grenoble, bah, Anthony.
C'est un carrefour.
Très embouteillée. Alors dites-moi, Anthony, vous avez vu un OVNI, vous, je crois que c'est ça ?
C'est ça, oui.
Alors racontez-moi tout.
Alors moi, c'était... je devais avoir 16-17 ans.
Ouais.
C'était au mois de juillet.
Ouais.
Pendant les vacances scolaires, si vous voulez, mes parents sont divorcés et ma mère et mon beau-père habitent à Grenoble, du coup à Fontaine.
Ouais.
Et donc mon père et ma belle-mère habitent dans un village un peu plus haut que Grenoble, en Chartreuse, à Saint-Christophe-sur-Guiers.
D'accord.
Et avec mes amis, on avait un coin où on faisait souvent des fêtes. Ça s'appelle la carrière au milieu d'une forêt. Mmh. C'est un champ. Et comme tous les étés, on se retrouvait là-bas pour faire la fête, on plantait des tentes, on faisait un barbecue et on dormait là-bas.
Mm-hmm.
Sauf qu'un soir, un objet énorme est arrivé au-dessus de nous, avec des lumières en dessous. Et ce qui est dingue, c'est que, donc j'explique la situation, c'est arrivé au-dessus de nous, on était à peu près une dizaine, moi j'avais mon cousin à côté de moi, j'étais tétanisé de peur. Mais sans pouvoir bouger, je me rappelle juste d'une amie à moi qui a crié. Et après, la seule chose dont je me rappelle, donc on était à l'extérieur de la tente, et la seule chose dont je me rappelle, c'est que comme quand on se réveille d'un mauvais rêve où on est un peu ensuqué, ou alors un réveil d'opération par exemple, on était à l'intérieur de la tente. Je ne me suis plus rappelé de cette scène pendant à peu près... un an ou deux, ou en tout cas, j'avais des petits flashs, mais ça ne me choquait pas tellement.
Mmh.
C'est comme si je ne voulais pas m'en rappeler. Jusqu'au jour où je rentre du coup d'un week-end de chez mon père, je vais à Grenoble, et ma mère et mon beau-père me disent « Je ne sais pas si vous voyez, à Grenoble, on a le synchrotron et le CEA.
Ouais. »
Et ils me disent « Purée, c'est incroyable, on a vu des ovnis... C'était des disques lumineux volés au-dessus du synchrotron. Ils sont restés lévités au-dessus du synchrotron. Ils sont partis d'un coup dans le ciel. On ne les a plus vus. Et là, je me suis dit, purée, mais moi aussi, en fait, j'en ai vu.
Mmh.
Et le plus dingue, c'est que trois semaines après, je suis remonté à Saint-Christophe. Et pendant un repas avec des amis, je me rends compte que un des amis à mes parents avait vu plus jeune à Saint-Christophe-sur-Guiers exactement le même phénomène que moi. Et ses amis, d'autres ne s'en rappellent pas, d'autres disent ne pas savoir ce qu'ils avaient vu. Et moi, c'est exactement pareil. Quand j'en parle avec mon cousin, il me dit « je ne sais pas ce que j'ai vu ».
Alors, là aussi, il y a plein de choses, parce qu'il y a aussi c'est la concordance, finalement, de l'observation à des années différentes, par des personnes différentes, mais vers la même région, quoi.
Oui, exactement.
Voilà. La question que je me pose, c'est pourquoi Saint-Christophe, pendant un moment, je me suis dit aussi, des fois, ce que j'ai vu, c'est pas vrai, c'est un mouvement de panique avec plusieurs personnes, et on a dû paniquer, mais non. Maintenant que, du coup, quand... Le collègue de mon père a dit et certifié que ce qu'il a vu, il n'était pas fou. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose du coup.
Ouais. Justement
Plusieurs choses. Alors moi, je connais très très bien cette région, hein, parce que mon père est de Grenoble. Donc voilà, je connais bien. Je connais bien le Saint-Crotron aussi. Et ouais. Donc alors déjà sur le Saint-Crotron, effectivement, c'est un lieu de recherche de très haute technologie. Donc ça peut... Bon, si aujourd'hui on nous dit qu'il y a des ovnis qui survolent des centrales nucléaires, pourquoi pas le synchrotron, hein. Voilà, je peux dire ça. J'en sais rien. J'avais jamais entendu parler qu'il y avait des ovnis au-dessus du synchrotron, mais on va dire pourquoi pas. Et puis après, oui, Grenoble est au carrefour en fait de plusieurs montagnes. Vous avez la chaîne de Belledonne, vous avez la Chartreuse et le Vercors. Et ces chaînes, enfin, ça fait comme une cuvette. Et donc, on sait que au-dessus de ces montagnes, il y a eu énormément d'observations d'ovnis lors des décennies qui se sont déroulées depuis les années 50.
Les Alpes, les Pyrénées sont des lieux...
les montagnes de manière générale. Hein.
On a la sensation que c'est presque l'endroit pour se camoufler. En tout cas, c'est ce que certains disent.
Exactement.
Je me souviens de mon poteau Nelson Montfort, quand même, présentateur émérite de sport à la télévision, qui lui aussi était venu ici témoigner. Il m'en avait parlé il y a 20 ans, qu'il avait vu un ovni aussi au-dessus de la montagne alors qu'il était avec sa femme dans une station de ski. Alors, on a la sensation qu'il y a pas mal de choses comme ça.
Pourquoi Saint-Christophe-sur-Guiers je ne sais pas. On ne sait jamais pourquoi c'est un petit village. Aujourd'hui, en fait, la fameuse affaire d'Aravilliers, c'était exactement un 10 janvier. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a 24 ans. Alors pourquoi Aravilliers, on ne sait pas. Et pourquoi Saint-Christophe-du-Guiers, on ne sait pas.
Alors, de toute façon, je pense que si effectivement il y a des visiteurs, il faut savoir qu'ils vont partout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le Waze, vous voyez, c'est la Terre.
C'est peut-être dû des choses qui nous échappent complètement. Ouais.
Vous savez que j'ai enregistré une émission aujourd'hui avec Manuel Virotte qui a écrit un bouquin, Les ovnis dans l'océan Indien, parce qu'il vit à La Réunion. Et vous savez que en 2015, il y avait... 800 observations d'objets volants non identifiés par jour dans tous les pays anglo-saxons. Par jour. Vous imaginez le nombre de ça fait des millions par an, hein, si on ramène à tous les pays. C'est juste colossal. Donc, vous êtes à la gare, vous, si je ne m'abuse.
Ouais, je suis désolé, j'ai dû laisser ma chérie en urgence.
Non, mais vous avez
bien fait. Je me suis dit, ça ne va pas s'entendre, je me suis éloigné.
Mais ce n'est pas très, très grave, c'est la vie.
Il y a un indice révélateur.
Voilà, donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observations et on se dit que c'est... la vraie question, c'est de se dire pourquoi ils iraient dans ce petit village. Mais en fait, ils vont observer la Terre, quel que soit.
Et l'objet en question, il ressemblait à quoi dans vos souvenirs?
Alors, moi, déjà, je l'ai vu de dessous, donc je ne peux pas vous dire la forme de dessous. C'était un disque vraiment énorme, lumineux, donc lumineux avec comme des lumières en cercle de plusieurs couleurs. De ce que je me souviens, c'était des verts, jaunes, bleus, et je crois que c'était tout. Et c'est arrivé, mais de ce dont je me rappelle, ça a duré... quelques secondes, quoi. Et après, plus rien.
Trou noir, après.
Et alors, ce qui est fou...
Après, trou noir,
Ce qui est fou, c'est soit un missing time, effectivement...
Ça y ressemble, en tout cas.
Mais, ou soit un coma éthylique, hein. Donc, c'est l'un ou l'autre.
Quand j'en ai parlé à mes parents, ils me racontaient ça, pour rigoler un peu. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas encore vu.
Donc, oui, c'est ça. C'est après que vous avez vu, c'est ça. Non, c'est vrai que ça arrive très souvent. Hein. Le temps manquant entre le moment où on observe et où est-ce qu'on se retrouve. On a fait une émission avec Paola Garrigeau sur les pilotes disparus. Il y a un pilote qui revient 5 jours plus tard. Ouais. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Quoi. Donc,
vous ne nous avez pas dit quelle année c'était? Parce que vous nous avez dit en juillet, mais...
17 ans.
En 2014.
2014. Okay. Ça vaut le coup de rechercher si... des gens ont vu autre chose à ce moment-là.
Voilà, je vous ai appelé vraiment pour essayer de voir si d'autres personnes qui habitent dans le secteur, Chambéry ou je ne sais pas.
Bien sûr, aurait pu voir la même chose et alimenter l'information. Mmh. Bah, l'appel est passé, donc si vous étiez en 2014 du côté de Grenoble, quel mois vous m'avez dit?
Juillet.
Voilà, juillet 2014 du côté de Grenoble. N'hésitez pas à nous en faire part, hein, redaction@btlv.fr au 01 86 22 21 20. Merci Anthony, on vous souhaite une belle année, prenez soin de vous.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Il y a Lewis qui dit « Merci au fait mon Jocelyn et Egon pour les livres que j'ai reçus ». Et puis tiens, il y a Jason qui dit « Le son de ma télé se lève et s'abaisse tout seul, est-ce un esprit ?» Bah, en tout cas, si ce sont des choses comme ça que vous vivez chez vous, n'hésitez pas à nous relater cet événement. Là encore une fois, venez témoigner car sans vous, cette émission n'existe pas. Valentin.
Eh bien, sur les réseaux sociaux, nous avions Véronique qui, elle, a réagi donc sur Facebook. Véronique Latreille qui nous dit que les ovnis sont très fréquents à Grenoble et qu'elle en a déjà vu.
Ah, bah, très bien. Donc, Véronique, venez témoigner. Hein, c'est toujours intéressant de voir parce que, effectivement, et c'est ce que disait Jocelyn, c'est-à-dire que les montagnes. C'est...
J'ai une petite anecdote parce que moi, j'ai fait au tout début, quand je travaillais, je travaillais comme journaliste à la locale du Dauphiné Libéré, donc à Grenoble. D'accord. Et un été, il n'y avait personne et j'avais demandé Alors, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Hein, des années 80. Et j'avais demandé à une assistante qu'est-ce qu'ils avaient comme archive sur les ovnis.
Mmh, déjà.
Et je pensais qu'elle allait me ramener 3-4 articles. Elle m'a ramené un truc mais épais, mais énorme.
Ça
ressassait tous les articles sur les ovnis que le Dauphiné Libéré avait publié, en gros, entre les années 80 et les années 50. Ouais. C'était énorme.
Ouais, et puis surtout, la presse locale s'intéresse à cela et n'a pas peur d'aborder tout cela.
Et puis, nous avons aussi ce Nestor, lui, sur Twitch, qui nous dit, en nous écoutant, qu'il a souvent l'impression en fait que les apparitions un peu d'OVNI ça arrive régulièrement proche d'un lieu nucléaire.
Oui, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un rapport, on a fait d'ailleurs un affranchi de l'info incroyable ici sur les ovnis et le nucléaire. Effectivement, ce lien, il existe. Tout le monde en a fait mention, les spécialistes, les gens du nucléaire, les militaires. On sait qu'il y a ce lien. On voit que depuis 2004, d'ailleurs, ce sont des navires nucléaires au large des côtes de San Francisco qui sont survolés par des objets volants non identifiés, mais qu'on a référencés comme solides, puisque c'est l'armée américaine et le gouvernement américain qui les a reconnus. Donc, c'est quand même ce lien, il est fort. Mais en même temps, ça paraît un peu logique. Moi, demain, j'arrive... Regarde comme nous, on regarde. Là, on a peur que l'Afghanistan arrive à enrichir son uranium et détienne l'arme nucléaire. C'est un peu pareil. T'es extraterrestre, tu regardes une planète, tu sais qu'ils ont une arme un peu compliquée, tu vas regarder ce qu'ils font, quoi, les mecs. Surtout si, comme certains le disent, tout est lié dans l'univers et qu'on pourrait avoir une incidence sur un ordre universel, tu vois. Donc, c'est autre chose ou on passe à la suite?
Il y a une dernière personne sur Twitch cette fois, donc Nino Unchia, qui aussi confirme qu'à Grenoble, c'est une zone très sensible, effectivement.
Et ben voilà, si vous êtes grenoblois, venez nous parler de vos observations. J'aimerais attirer votre attention sur jeudi. C'est une semaine masterclass avec Muriel Siron, puisque... C'est le retour des masterclass, elles sont là tous les 15 jours et c'est Sandrine Chopin. Alors, ce n'est pas sur btlv.fr, c'est en inscription et c'est en réservation. Donc, Valentin va mettre le lien et si vous le loupez, bien sûr, c'est sur la homepage de btlv.fr. Apprenez le langage des astres pour mieux maîtriser votre destin. Mesdames et messieurs, BTLV, c'est des replays, c'est des podcasts, c'est de la VOD et c'est aussi des livres. La preuve, celui de Egon Kragel, sort après-demain en librairie. Alors, certains l'ont déjà eu puisqu'il était en précommande et dispo sur BTLV. Il est toujours sur BTLV, mais dans tous les cas, il sort partout jeudi et vous pouvez le commander sur BTLV aussi.
En 2017, le New York Times annonce que les USA étudient officieusement les ovnis. Au même moment, nous découvrons des vidéos d'objets volants non identifiés survolant les navires de l'US Navy. À quoi a-t-on affaire? Qui sont-ils? Sont-ils pilotés? D'où viennent-ils?
Obligé de valider la réalité du phénomène physique, le gouvernement américain a ouvert le champ des possibles tout en rappelant que tout cela n'est pas nouveau. Voilà pourquoi Egon Kragel vous propose de découvrir 12 dossiers OVNI que le Pentagone ne s'explique pas. Des Foo Fighters de la Seconde Guerre mondiale à la vague belge, en passant par le monstre de Flatwoods jusqu'aux ovnis de la vallée de l'Hudson, plongez dans des dossiers ovnis qui dépassent ce que l'on peut imaginer. Découvrez des ovnis qui défient les lois de l'espace et du temps. OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Le nouveau livre d'Egon Kragel chez Max Milo, dans la collection BTLV, Mystère et inexpliqué. Rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat.
Voilà, OVNI, 12 dossiers que le Pentagone ne s'explique pas. Alors, c'est vrai qu'il a mis du temps à nous sortir cet ouvrage, mais c'est un petit bijou, ces dossiers. Il les a fouillés, bien évidemment, Egon Kragel. Et accouchement, ça y est, il est chez tous les bons libraires à partir de mercredi. Vous pourrez le trouver, ou si vous le voulez avant, eh bien, vous le commandez sur btlv.fr.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
À ce numéro de téléphone, nous sommes heureux d'accueillir Sacha qui est avec nous. Bonsoir Sacha.
Bonsoir.
Bon, ravi de vous accueillir. Alors, pour la petite histoire, on vous a eu la semaine dernière, si je ne m'abuse.
Oui, exact.
Et
c'est
effectivement, exact. Vous nous avez parlé d'une ombre mystérieuse lorsque vous pianotiez sur votre ordinateur et vous aviez évoqué une photo qu'on n'avait pas et on a récupéré cette photo. Alors, peut-être pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, recontextualiser un petit peu ce qui s'est passé.
J'étais dans ma chambre un soir et puis, surtout la nuit, je dormais, mais je me faisais réveiller par des ombres, des grosses ombres qui passaient en sprint dans ma chambre et c'est devenu de plus en plus pesant et voilà.
On se souvient que ces ombres, elles étaient présentes. Est-ce que, je ne sais pas si je vous ai posé la question la semaine dernière, est-ce que vous aviez la sensation que c'était pesant comme atmosphère?
Oui, c'était extrêmement pesant, très très nébuleux. Comme j'avais dit, c'était pas malsain dans le sens que ça voulait me faire du mal, mais c'était triste, malheureux.
D'accord. Voilà. Mélancolique, quoi. C'était un peu lourd, quoi, de ce côté-là. Exactement. Alors, on va regarder la photo que vous nous avez permis d'avoir, et on va bien voir que sur la photo, vous êtes effectivement. Alors. Déjà, pourquoi avoir pris cette photo? Parce que là, vous êtes visiblement en conversation, genre Skype ou un truc comme ça, et vous prenez une photo, et c'est l'ombre qui est derrière que l'on voit au fond, en fait, c'est ça?
Exact, ouais.
D'accord. Mais alors, si je comprends bien, où est-ce qu'elle est, cette ombre? Parce qu'il y a une fenêtre derrière vous, là. Donc, il y a vous, sur la photo, et il y a une porte ou une porte-fenêtre derrière vous. Et c'est là que l'ombre apparaît, c'est ça?
C'est ça.
D'accord.
Comme on voit derrière, il y a une grosse ombre dans le reflet, quoi.
Donc, ouais, ouais. Et alors, vous êtes aperçu de cette ombre après, j'imagine, après avoir pris la photo?
Ah oui.
Pas sur l'instant.
Un an après, c'était en regardant mes photos que j'ai blessé, quoi.
D'accord.
Quand je suis tombée sur ça, c'était sur le coup, non, c'était un pur hasard. Je prenais en photo à l'époque mon copain. Mm-hmm. Et voilà, c'était un pur hasard, quoi.
Et alors, est-ce que vous vous rappelez que cette photo a bien été prise le soir où vous sentiez les ombres? C'est-à-dire que sur votre. Il y a la bonne date. D'accord.
C'était le soir.
D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, là encore, c'est qu'à l'œil nu, vous ne voyez rien. Pourtant, vous pensez et vous ressentez des choses. Et quand vous regardez la photo un an plus tard, vous voyez les ombres. Et quand vous parliez avec vous discutiez avec votre copain, hein, je crois.
Oui.
Est-ce que vous sentiez, vous étiez mal à l'aise, là encore, même quand la conversation avec votre ami a démarré?
Alors, je m'en rappelle bien de cette soirée-là. Dans cette soirée-là, non. Justement, ça allait très bien. Aucune ambiance pesante ou quoi que ce soit.
D'accord.
Donc,
Et c'est en allant vous coucher, finalement, en étant seul dans votre chambre, que vous avez ressenti ça?
Ouais, voilà, c'est quand j'étais vraiment seule que, ben, voilà, quand j'allais dormir, ça arrivait, ça revenait.
D'accord. Et c'est resté longtemps cette ambiance pesante, ces ombres mystérieuses ou pas du tout?
Oui, un an, au moins un an, oui.
Ah non, quand même. Ah oui. Donc voilà, c'est quand même assez... Et alors, je ne sais pas, parce que comme j'ai beaucoup de témoignages dans la tête, je ne sais plus si je vous ai posé cette question, mais j'ai envie de vous la reposer. Est-ce que vous étiez dans un état particulier à ce moment-là?
Oui.
Ou pas? Ouais, c'est
oui,
ça, je crois que c'est... Voilà. Vous n'étiez pas très bien, hein, je crois, c'est ça. Donc,
exact.
Voilà, donc il y a... C'est ce que disait un peu tout à l'heure Jocelyn par rapport au premier témoignage de Violette. C'est-à-dire qu'on peut très bien, quand on est dans un état un peu particulier et pas très joyeux, plutôt engendrer des choses un peu sombres, négatives. Hein. En tout cas, c'est ce que certains disent.
Ça attire.
Et vous avez la sensation que c'est que justement vous aviez cette responsabilité dans ce que vous aviez vécu, c'est-à-dire que votre état d'esprit dans lequel vous étiez a engendré cela?
Oui, ah oui, tout à fait. C'était vraiment, c'était tellement, on peut dire, noir que forcément, ouais. En plus, je croyais beaucoup à ces choses-là. Donc, les deux associés ensemble, voilà, c'était un peu de ma faute, entre guillemets.
Ouais.
Voilà, un peu de ma faute.
Bah écoutez, en tout cas Sacha, merci d'être revenu avec cette photo, ça nous a permis un petit peu de, on va peut-être la revoir quand même, parce que on voit bien quand même une ombre, alors et c'est vraiment une ombre humaine, hein, c'est-à-dire que là on peut pas...
Ah oui, c'est une grosse silhouette.
Alors, je vous ai pas posé la question, derrière la vitre habituellement il y a quoi en fait là derrière ce...
Mon jardin.
D'accord.
Bah, je suis en hauteur, donc j'ai vu sur plus le ciel qu'autre chose, ou les arbres à la limite.
Ouais.
Mais là, le volet, il était fermé.
Ouais.
Donc derrière, on peut voir, c'est le reflet de ma salle de bain, de la lumière de la salle de bain.
Ouais.
Et donc voilà. Et il y a eu cette ombre mystérieuse qui apparaît.
Eh bien, écoutez, on est bien peu de choses, ma bonne dame. Donc, il s'en passe des choses. Merci en tout cas, Sacha, d'être revenu cette semaine encore pour boucler cette ceinture, non pas de sécurité, mais paranormale, celle que vous avez vécue en tout cas ce soir-là. Merci mille fois et durant cette année-là, d'ailleurs, puisque ça a duré un an. Merci. Faites comme elle si vous voulez témoigner, 01 86 22 21 20 ou rédaction@btlv.fr.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Dans un instant, on va recevoir Seb Raoult pour nous parler d'OVNI, science et histoire. Le nouveau numéro qui est dans les kiosques et dont on est partenaire. On parlera de tout cela dans une poignée de secondes. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que Mathieu Combaz vient très souvent sur BTLV aux côtés de Mathias Leboeuf dans Le Bœuf par les cornes pour évoquer des faits étranges. Et cette fois-ci, ils sont revenus ensemble sur les cosmonautes perdus, parce que quand on s'aperçoit et quand on se plonge dans la conquête spatiale, on s'aperçoit notamment du côté russe qu'il y a eu pas mal de pertes. Regardez.
À la fin des années 50, vous aviez deux frères, Achille et Giambattista, qui habitaient à Turin, à côté de Turin. Qui étaient passionnés de quoi? Ils étaient passionnés de radio et ils étaient passionnés d'espace.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont combiné les deux. Il y avait à côté un ancien bunker de l'armée allemande, hein, de la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont investi. Et ils ont mis dedans tout un atelier avec des antennes pour écouter. Le 23 mai 61, ils écoutent l'espace et là, ils entendent une voix féminine. C'est du russe. La sœur des frères Achille et Jean-Baptiste parlait russe. Elle a décrypté autant que possible les langues. Elle envoie une communication vers la Terre et elle dit, il fait de plus en plus chaud, je suis en train de m'écraser, aidez-moi. Donc exactement comme si quelqu'un en orbite, donc première femme dans l'espace, descendait dans l'atmosphère pour brûler.
Pour se cracher, ouais.
Pour se cracher.
Les cosmonautes perdus, Mathieu Combaz, historien du mystère dans Le Bœuf par les cornes, réservé bien évidemment à vous qui êtes abonnés, qui êtes de plus en plus nombreux à le devenir. Si vous voulez bien en profiter de cette émission, faites comme ceux qui le sont déjà, abonnés à ce média qui est devenu en 9 ans maintenant le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Quand on voit ce genre d'émission, on ne doit pas en douter. Arrive dans un instant, Philippe, on va parler de foudre en boule, mais pour l'heure, on va évoquer un magazine dont on est partenaire, OVNI Science et Histoire, avec Seb Raoud, qui est le rédacteur en chef adjoint de ce magnifique magazine. Salut Seb.
Salut Bob, salut Jocelyn, bonne année.
Ouais, ravi de t'accueillir, très bonne année à toi et à OVNI Science et Histoire, bien évidemment, parce qu'il y a un nouveau numéro qui commence très très bon et qui très très bien et qui ouvre bien cette année avec une très très belle couverture, avec déjà quelqu'un qui, en fait, qui allie nos deux passions à Jocelyn, c'est-à-dire le rock'n'roll et les ovnis, puisqu'on a quand même John Lennon, les expériences ovnis de Lennon. Et effectivement, Seb, alors c'est marrant que vous ayez mis quand même ça en couverture, parce que beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes ont vu ces objets volants dont on l'identifiait. Hein.
Ouais, non, effectivement, alors c'est vrai que pour la couverture assez psychédélique, on est assez ravis. On remercie l'imprimeur pour ça. C'est vrai que John Lennon, même si c'est l'un des plus célèbres, on va dire, n'est pas le seul. Je me rappelle, alors on est moins célèbre, mais quand même, je crois que c'était Gilles Lelouch et je ne sais plus qui sur un bateau.
Gérard Darmon. Ouais, c'est ça.
Voilà, ils avaient parlé d'un truc comme ça au mouvement erratique. Non, effectivement. Et ce qui est bien, c'est que les langues se délient quand même. Et là, les un petit peu comme Nelson Montfort dont tu as parlé tout à l'heure, on n'a plus ou moins peur, on va dire, de parler de ce genre d'expérience-là, et c'est bien.
Alors, c'est un gros sommaire, hein, ce numéro. Qu'est-ce qu'on y trouve cette fois-ci dans ce nouveau numéro?
Alors, cette fois-ci, alors forcément, on revient toujours sur l'actualité du dernier trimestre, tant en astronomie, bien évidemment en ufologie, en robotique. Ensuite, vous pouvez trouver un article très intéressant sur le métaverse, controversé, moins controversé pour certains, un petit peu à la façon... Ready Player One de Spielberg, notamment. Donc c'est Morgan Sollier qui a écrit ce bel article. On a aussi forcément un florilège de tes émissions du dernier trimestre, vu qu'on est partenaire, avec, alors j'en citerai trois, une interview de Jean-Louis Lagneau de Lumière dans la nuit, Les ovnis des haleines par David Gallet. Et puis une belle émission aussi de Jean-Pierre Petit, trop rare à mon goût. Donc voilà pour ça. Alors, je pourrais te citer aussi un très bel article d'Audrey Chapeau sur la relation entre le peuple Hopi, donc un peuple amérindien de l'Arizona, et les Star People, qui n'est pas sans rappeler le livre d'Hardy Sixkiller Clark, Rencontre avec le peuple des étoiles, peut-être l'un des plus beaux livres qui existent, à la fois poétique et vraiment que je conseille à tout le monde.
C'est vrai.
Donc voilà, après je pourrais te citer aussi un article sur l'ICER, notamment toi reçu récemment Paolo Ghisardi, l'un des membres italiens de cette coalition internationale. Et puis on ne va pas parler que d'ufologie, on a aussi Natacha Lecourtois qui nous parlera des mondes invisibles avec notamment une interview de Sonia Barcala sur les EMI, les expériences de mort imminente. Voilà pour le sommaire.
Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci Seb d'être venu nous présenter ce nouveau numéro d'OVNI Science et Histoire. Bien sûr, vous le trouvez chez tous les bons crémiers, tous ceux qui, bien sûr, s'intéressent au mystère, à l'inexpliqué. On est partenaire de ce magnifique magazine OVNI Science et Histoire numéro 12, avec tout ce dont vient de vous parler Seb, et bien d'autres choses, parce qu'il est ultra méga complet. Merci Seb d'avoir été avec nous ce soir. On te souhaite une belle année et fais attention à toi.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Seb Raoud, rédacteur en chef adjoint d'OVNI Science et Histoire. Alors, je rappelle d'ailleurs que si vous voulez être abonné à ce magazine, vous pouvez l'être par BTLV, parce que il y a une l'abonnement Gold vous offre l'abonnement à BTLV, l'abonnement à OVNI Science et Histoire et l'abonnement à un autre magazine du groupe Diverti, plus deux places de jour pour les rencontres du mystère et de l'expliquer qui, j'espère, reviendront un jour en présentiel. Mais ça, c'est encore pas sûr. 01 86 22 21 20, on accueille Philippe dans une poignée de secondes, mais on fait un tour sur les réseaux avec Valentin.
Oui, eh bien, sur les réseaux sociaux, il y en a pas mal qui se plaignent, qui nous expliquent...
Qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre ?
Qui vivent des moments assez étranges. Ah. Joël, par exemple, sur Facebook, qui, elle, voit des voiles sombres qui se déplacent. Donc, si elles veulent témoigner,
ça c'est bienvenu. Des voiles, en fait.
Des voiles, peut-être des rideaux, des choses comme ça.
Des voilages.
Voilà.
des tissus.
Exactement.
Okay.
Et puis, nous avons aussi Hélène Tajan qui, elle, voit souvent des ombres noires. Donc, elle réagissait par rapport...
Alors, ça, c'est intéressant parce que les ombres noires, c'est vraiment une quelque chose. Parce que tu es dans le noir et tu ressens de la noirceur ou quelque chose qui... C'est-à-dire que ça doit être assez impressionnant. Moi, j'ai jamais vécu ça, mais ça doit être fou.
Donc, être dans la semi-obscurité.
Oui, c'est ça. Tu dois avoir un petit rayon de lumière et quelque chose qui passe.
Soit plus sombre encore.
Voilà. Venez nous en parler, hein, 01 86 22 21.
Et puis aussi sur Twitch, Ricky Palmer 1961, qui elle
c'est un habitué, hein,
à La Réunion, il y a pas mal d'affaires paranormales.
Oui, c'est vrai. Merci de commenter, de continuer à dialoguer. Je sais que c'est un peu le café du commerce, hein, le chat de BTLV, parce qu'il ne manque plus que les petits gâteaux. apéro.
Ouais, c'est vrai, bien. On parle de tout.
Ça parle de tout, mais dans tous les cas, vous êtes une grande famille et ça nous fait bien plaisir. Philippe est au standard. Salut Philippe.
Oui, bonsoir Bob. Bonsoir Florian, bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Bienvenue à toute l'équipe.
On est ravis de vous accueillir. Alors, c'est Jocelyn pour la petite histoire. Voilà, pas Florian. Mais dans tous les cas,
c'est pas grave.
Mais je voudrais que vous commenciez l'année correctement parce que sinon, vous allez partir sur une mauvaise base avec lui. Alors, Philippe, vous êtes où ? Vous êtes en France ?
Alors oui, je vous appelle d'une petite commune juste à côté de Brive-la-Gaillarde.
Ah, Brive-la-Gaillarde, ça c'est bien, c'est une très très jolie ville, Brive-la-Gaillarde.
Alors, c'est vrai.
Dites-moi Philippe, je suis ravi de vous accueillir parce que je n'ai jamais eu de témoin de foudre en boule. Donc voilà, alors racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé.
Je suis ravi d'être le premier. Alors c'est une affaire qui s'est passée il y a maintenant 50 ans. Ouais. Puisque c'était à l'été 1972.
Ouais.
Donc moi, j'étais très jeune, hein, j'avais 8 ans et demi.
Ouais.
Donc c'était pendant les vacances. Et donc au mois d'août, je le situe au mois d'août parce qu'en fin de compte, dans mes souvenirs, on avait très souvent, les orages se situaient vers la fin de l'été, lorsque vraiment on avait des très grosses chaleurs.
Ouais, bien sûr.
Donc c'était un matin, comme beaucoup d'enfants, je pense, j'étais resté au lit très très tard, et j'étais dans ma chambre à l'étage de la maison, donc à cet étage il y a trois chambres et puis une salle de bain, et ma chambre, la porte de ma chambre est juste en face, en fin de compte, de la porte de la salle de bain.
Ouais.
L'orage a commencé, je l'entendais, bon j'étais toujours dans mon lit tranquillement, je l'entendais, bon j'ai pas eu plus peur que ça, tant que l'orage était, on va dire, peut-être assez loin.
Ouais.
Et puis, bon, comme ça arrive souvent, l'orage était, on avait l'impression que l'orage était vraiment au-dessus du quartier. Quoi.
Il se rapprochait, quoi.
Bon. Donc voilà, l'orage se rapprochait, ça tonnait très très fort. Tout ce que je vais vous raconter s'est passé en quelques secondes.
Mm-hmm.
Voilà, donc c'était très très bref, mais j'en garde un souvenir très précis. Et alors, bon, à un moment, bon, un coup de tonnerre plus fort qu'un autre, j'ai décidé de me lever parce que j'étais pas tranquille seul dans ma chambre et de descendre au rez-de-chaussée. Donc, je me suis levé et au moment où je suis arrivé à la porte de ma chambre, j'allais ouvrir et j'ai entendu, je peux comparer ça peut-être à un coup de fusil, comme si on avait tiré au fusil de chasse dans la salle de bain, juste en face de ma chambre. Donc, il faut savoir que, comme il faisait très chaud depuis le matin, je pense, les fenêtres et une porte-fenêtre qui se trouvait à droite de ma chambre et qui donnait sur la rue était entrouverte, en fin de compte, pour faire circuler l'air, parce que c'était étouffant. Donc, j'arrive, je me prépare à ouvrir ma chambre pour accéder au couloir. J'entends ce coup, quelque chose d'épouvantable, donc qui m'a vraiment fait peur. Et exactement au même moment, j'ai vu en face de moi, donc provenant de la salle de bain dont la porte était ouverte, une boule. Alors, la taille, on va dire, peut-être la taille d'un melon, mais d'un petit melon. Donc, qui se situait un petit peu en dessous de la hauteur de mon visage. Donc, peut-être quelque chose comme 1m20, 1m30 du sol.
Ouais.
Et cette boule est passée devant moi, donc de ma gauche vers ma droite. De ce que je m'en souviens, elle n'est pas passée en un éclair si vite que ça. J'ai eu le temps de la voir se déplacer. Ce qui m'a fait très peur, c'est en fin de compte le bruit que ça faisait. Parce que j'ai encore dans la tête un crépitement, je pourrais le rapprocher peut-être maintenant du bruit d'un taser très très fort,
ouais.
Mais qui ne s'arrête pas. Quoi.
Un peu le bruit que l'on a quand on montre des... vous savez, quand on va dans des expositions où il y a le truc de Tesla, là, où il y a tous les trucs électriques, là, voilà, c'est un peu ça.
C'était très puissant.
Ça, c'est l'électricité statique.
C'est ça, ouais.
Voilà. Je voyais une forme plus ou moins sphérique, mais pas très définie, parce qu'il y avait plein d'étincelles autour, et ça me fait penser aussi aux bougies magiques d'anniversaire, là, qui se rallument aussitôt, donc ça crépite, voilà.
Ouais.
Donc cette boule est passée devant moi, alors je ne me souviens pas si j'ai crié ou pas, tout ce que je sais c'est que j'ai refermé la porte rapidement parce que j'ai eu vraiment très très peur. Et en fin de compte, je suppose qu'elle est sortie par la porte-fenêtre qui était entrouverte. Ça c'est les seuls souvenirs très précis que j'ai.
Est-ce que vous avez aussi un souvenir d'odeur ?
Alors oui, tout à fait. Au moment où j'ai entendu ce coup de fusil là, enfin tel un coup de fusil, j'ai senti une odeur, on va dire un peu comme quand on fait brûler, quand il y a un court-circuit et qu'il y a des circuits électriques qui brûlent, quelque chose de très très âcre, une odeur très très forte. Et d'ailleurs dans la salle de bain, il y avait un chauffe-eau, et il se trouve, bon ça je m'en souviens encore à peu près, c'est que le chauffe-eau, la face avant du chauffe-eau était toute noircie. D'ailleurs, il était en panne après, hein, le plombier était venu.
Il y a une surtension. Il y a une surtension.
Voilà, j'ai pas eu les explications de ce qui s'était passé. Je me souviens de l'image de ce chauffe-eau noirci. Il y avait l'encadrement de la porte de la salle de bain aussi, il y avait des traces noirâtres. Donc sur le chemin, en fin de compte, qu'a emprunté cette boule-là. Et alors, pas mal de temps après, quand j'ai lu... Tintin et les sept boules de cristal. J'ai tout de suite fait le rapprochement et je me souviens à l'époque, j'avais dit que c'est ça que j'ai vu.
Il y a une scène effectivement qui ressemble exactement à ça. Ouais.
C'est exactement ça que j'ai vu. Alors c'était situé à peu près 1m50 hein, de moi, donc c'était quand même très proche. C'est passé devant moi. Donc ça m'a vraiment foutu la trouille, quoi, on peut le dire.
Alors, surtout quand on est enfant en plus, c'est-à-dire que déjà... Et puis, alors, moi, ce que je trouve fou, c'est que j'ai lu des choses, notamment dans le chat, là, ça peut rentrer à l'intérieur des maisons, ça peut traverser un appartement et repartir. C'est-à-dire que c'est absolument...
Alors ça ne dure pas longtemps.
Oui, ça dure pas longtemps.
Ça va très très vite. Ouais. C'est exactement... En fait, la description que vous avez faite, elle est vraiment... c'est vraiment celle de la foudre en boule, ou on appelle ça la foudre globulaire. Alors, il faut juste savoir une chose. Vous dites que c'est arrivé il y a une cinquantaine d'années, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, absolument.
Alors, à l'époque, on considérait encore que la foudre en boule était quelque chose de fictif. Enfin, on n'était même pas sûr que ça existait.
Ah oui. Donc on n'était pas certain de la réalité de la chose.
Exactement. Il faut savoir que ça a été prouvé scientifiquement que ça existait en 2007. La foudre
en boule. C'est pas vieux. Hein.
Alors que moi j'avais des souvenirs quand j'étais gamin de ma mère me disant fais attention en temps d'orage, faut faire attention à la cheminée, faut pas laisser les portes ouvertes à cause de ça. Parce que donc il y a une sorte de tradition orale qui se transmettait en disant la foudre en boule ça existe, il y a tellement de gens qui l'ont vu. Alors c'est vrai que les témoignages il y en avait plein. Sauf que les scientifiques étaient embêtés parce que il n'y avait que des témoignages.
C'était
un peu comme les ovnis.
C'est ça. D'ailleurs, beaucoup de gens qui ont vu de la foudre en boule, on les a pris aussi de temps en temps pour des ovnis.
Oui, exactement. Voilà, alors, ça a été depuis 2007, on sait que ça existe parce que ça a été reproduit en laboratoire et on sait enfin un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que vous avez dit une boule là, de la taille d'un melon c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait, il y avait des odeurs parce qu'en général, ça s'accompagne d'odeurs d'ozone, d'acide nitrique, enfin plein de choses comme ça, choses qui sortent mauvais.
C'est ça.
Voilà. Et puis le trajet, en général, alors c'est très rapide, hein, ça va d'après ce qu'on sait, 5-6 secondes. Pas plus, hein, ça dure.
C'est déjà énorme.
Il n'y a pas de foudre en boule qui reste pendant 10 minutes dans la maison.
Ouais, c'est ça.
Ça va très vite.
Non, moi, c'est le temps de passer de la salle de bain à la porte-fenêtre qui était à 3 mètres, même pas 2,50 m.
Ouais, c'est ça. Ça a été furtif.
En fait, c'est comme si la boule était. Alors, c'est pas intelligent, mais c'est comme si elle avait l'impression. Il fallait qu'elle sorte, quoi.
C'est ça.
Qu'elle trouve un
échappatoire.
Bon, et c'est un très beau témoignage parce que c'est exactement ça.
Et ça vous a marqué, j'imaginez-vous, 50 ans après.
Oui, je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié, alors j'en avais parlé à mes enfants, j'en avais parlé autour de moi, bien sûr, un peu plus tard, mais c'est quelque chose qui est très présent et je, oui, je revois cette scène encore.
Merci, voilà. Merci de nous avoir livré ce témoignage. Parce que j'avais toujours entendu parler de foudre en boule, mais je n'avais jamais eu un témoin du phénomène.
C'est rare, hein,
merci infiniment, en tout cas, d'avoir été encore une fois avec nous pour témoigner. Faites comme Philippe. Hein. Alors, je vous vois souvent dire ça ne répond pas, mais on n'a pas 12 bras. Donc, on répond quand on peut. Et quand on ne répond pas, laissez vos coordonnées sur le message, sur le répondeur téléphonique. Merci, Philippe. À bientôt.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
Dans un instant, on parlera avec Benoît. Benoît était là la semaine dernière. Vous vous rappelez, il avait dit avoir vu un ovni du côté de Sisteron allongé comme un tube et il avait des photos qu'on avait, qui n'étaient pas passées en fait. On a compris pourquoi. En fait, elles n'étaient pas passées parce que le dossier était trop lourd. On les a cette semaine. On va y revenir dans quelques instants puisque vous étiez déçus la semaine dernière de ne pas les avoir vues. Avant cela, on va évoquer un nouveau film qui est arrivé en VOD sur btlv.fr parce que vous savez, hein, il y a des émissions, il y a des replays pour les émissions, il y a des podcasts pour les émissions et il y a aussi des films en VOD de producteurs extérieurs. C'est le cas de Valérie Seguin qui vient de signer un très joli film, L'âme, qui est arrivé sur btlv.fr.
Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur l'âme. Ce film propose de poursuivre cette réflexion en donnant la parole à des philosophes, des médecins, des thérapeutes, des chercheurs de sens qui investissent le champ de l'âme.
Au fond de nous, il y a quelque chose de très beau, de très pur, mais on n'a pas appris à le voir.
Et Jung nous dit le drame de l'être humain au XXe siècle, c'est qu'il s'est amputé de son âme.
Il faut sortir son âme de sa prison.
Quand on est connecté à son âme, la vie paraît plus simple et plus joyeuse parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance.
Il y a une douceur qui s'installe. Et c'est comme si tout d'un coup, on avait notre corps qui...
On va sentir un bonheur qui n'a aucune raison. Et ça, c'est ce que ça nous offre, d'être connecté à notre âme.
Notre âme est une énergie d'un amour incroyable, d'une bienveillance incroyable à laquelle on peut se raccorder quand on veut.
Mais comment nous relier à cet espace subtil? Comment découvrir son chemin d'âme?
C'est un peu une sorte de chasse au trésor. C'est un grand jeu. Et que dans ce grand jeu, il y a des indices.
Ça nous invite à changer d'intelligence.
Ça changerait toute la société.
C'est un voyage au cœur de l'âme que ce film vous invite à découvrir.
C'est, en tout cas pour moi, sans aucun doute, la plus forte, la plus haute, la plus vaste, la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire.
L'âme. Comment en faire une force dans sa vie?
Voilà, L'âme, le film de Valérie Seguin qui est à votre disposition, bien sûr, en VOD sur btlv.fr. Il y en a d'autres, hein, la sphère VOD s'agrandit sur BTLV, on en a de plus en plus. On a un très joli documentaire aussi signé Sandrine Chopin en ce moment, qui est tout nouveau, Mama Christine, sur une femme qui est partie en Asie pour aider les enfants. Et c'est vraiment touchant. Donc tout cela, c'est sur btlv.fr. 01 86 22 21 20, sans transition aucune. On va revenir donc sur ce que nous a dit Benoît la semaine dernière. Et Benoît est avec nous. Bonsoir Benoît.
Oui, bonsoir Bob. Bonsoir à tout le monde.
Ravi de vous accueillir une nouvelle fois. On s'est eu la semaine dernière. Effectivement, on n'avait pas eu les photos. Et on les a cette semaine. Alors, on rappelle brièvement, vous êtes du côté de Sisteron en voiture et vous voyez quelque chose. Rappelez-nous l'histoire.
Oui, voilà, je suis en partance pour Paris où je me suis installé. Et donc, on est là en 2002, hein, il y a exactement 20 ans, hein, en tout cas au mois d'août 2002. Et j'ai cru voir se lever Vénus à côté de la Lune sur une route nationale qui prend direction nord, hein, en sortant de Sisteron. Et puis, je me suis aperçu que cette luminosité, que j'avais pris pour une étoile ou en tout cas une planète, comme Vénus, qu'on voit quelquefois au coucher du soleil, grossissait. Et pire, elle venait vers moi, donc j'ai là arrêté ma voiture, hein. Il était environ 20h, le soleil était presque couché. J'ai mis ma voiture sur le côté, le temps de bien observer la chose, parce qu'en roulant, c'est pas évident, hein. Mm-hmm. Même si la route est droite, faire attention.
Et puis, j'ai sorti mon appareil photo parce que je savais qu'il restait une prise de vue possible sur la pellicule que j'avais à l'époque, un film noir et blanc, 125 ZA. Voilà.
Et alors, on va regarder les photos parce que c'est vrai que la semaine dernière... alors, ce qui vous a étonné, c'était le côté cylindrique, finalement, de la chose qu'on va voir en plusieurs étapes parce qu'on voit arriver une première photo. Alors, le ciel est clair parce que là, c'est de l'argentique. Hein, donc voilà. Et on voit une photo. On l'a entouré de rond rouge, hein, l'objet. On voit un cylindre, en fait. C'est ça qui vous a le plus étonné?
Bien sûr, parce que c'est ça qui était très visible et assez important. Moi, je pense que ce que j'ai vu quand j'ai visé avec l'appareil photo, c'est-à-dire ce cylindre sans forme balistique, sans forme de missile, hein, un cylindre avec des angles droits, hein, qui volait, mais sans bruit du tout. Et quand il est passé à ma verticale, j'ai déclenché, je ne le voyais pas dans le viseur, je ne comprenais pas, parce que je me suis dit, c'est pas possible, j'ai une hallucination. Il allait vite, je l'ai raté, je pense que je l'ai raté, et que, par chance, sur le bord de ma photo, il y avait un autre objet similaire, le même, mais beaucoup plus haut, et donc plus petit. Et là, c'est celui-ci qu'on voit sur la photo qui a été traitée par la suite par un forum d'ufologues une dizaine d'années après, hein.
Ouais.
Et qui a révélé, au fond, d'autres détails, comme trois triangles autour de cet objet que moi, bien entendu, je n'avais pas vu du tout, ni sur ma photo, ni à l'œil nu.
Alors, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a quelque chose dans le ciel, là. On voit qu'il y a quelque chose qui a l'air solide, hein. Donc ça, c'est assez...
Ah oui.
Et alors, vous avez donc fait analyser cette photo. Cette photo,
oui.
Bien évidemment, elle a révélé cette chose-là. On n'a pas pu, parce que aller plus loin dans le zoom de la photo, on n'a pas pu, vous n'avez pas essayé de peut-être que, parce qu'elle est quand même assez étonnante. Et alors,
oui.
Parce que là, il faut savoir que c'est très haut dans le ciel, là, non?
Oui, c'est très haut parce que d'après ce que les experts ont dit de ce forum, je crois que c'est un forum OVNI qui est sur Internet assez connu, les experts qui ont analysé cette photo, d'abord m'ont dit qu'elle était d'un très haut intérêt ufologique. Bon, je l'ai appris parce que je n'en avais pas conscience. Parce que justement, il y a là un objet qui a un corps, une solidité, quoi. On voyait, moi, je me souviens très très bien que l'objet était marron et que derrière cet objet, j'ai vu simplement comme une espèce de petite bulle bleue qui suivait comme une espèce de tuyère d'éjection. Mais si vous voulez, c'était une sorte de forme de plasma bleu qui suivait qui était collé à cet objet qui fuyait et qui a traversé l'horizon de part en part en l'espace de quoi, une minute trente.
Ouais. À aucun moment ça aurait pu être un missile parce qu'à un moment donné il y a quand même c'est allongé, on peut imaginer que le petit truc bleu c'est les flammes derrière.
Ça dépend de l'altitude, parce qu'on est à Sisteron et il y a des montagnes.
Pas dans la plaine. Le ciel était très clair, donc si vous voulez, en plus moi j'ai pas de problème de vue, mais très bonne vue. J'aurais pu être pilote quand j'avais fait l'armée, on m'avait dit que j'avais 14 sur 10 aux deux yeux, donc je crois que j'avais une bonne confiance à ce que je voyais à ce moment-là. Et puis le ciel était très clair, l'objet était très visible, et donc on voit d'ailleurs sur la photo une petite lumière derrière. Hein,
je pense à une chose, l'objet se déplaçait vite ou pas?
Ben, il a traversé l'horizon, si vous voulez, à la vitesse apparente de deux fois celle d'un avion de ligne. Voilà. Après,
ça dépend aussi de l'altitude.
Voilà, parce qu'un avion de ligne, quand c'est à 10 000 mètres d'altitude, ça ne va pas très vite. Ouais. Quand ça passe très vite, pas très haut, ça va vite. Quoi. Donc,
Bien sûr.
Vous êtes de la région de Sisteron ou vous connaissez?
Non, pas du tout.
Moi, il s'avère que je la connais un petit peu. Et moi, je pense tout de suite à quelque chose, parce que c'est une région qui est hyper connue pour une chose, les planeurs.
Oui.
Il y a des planeurs, mais plein le ciel tout le temps, surtout en été. Donc voilà.
Oui, mais il y a aussi, si vous voulez, des canards, des oies. Je veux dire, on sait quand on voit un planeur et quand on ne voit pas un planeur. On sait quand on voit un canard.
S'il est très haut dans le ciel, déjà, moins facile à reconnaître. Ça ressemble à un petit tuyau.
Oui, mais il n'y a pas de lumière bleue derrière sur un planeur.
Non, a priori pas, je ne sais pas.
Un planeur pour voler, il y a deux caractéristiques. Il y a une forme aérodynamique. Là, on a une forme absolument pas aérodynamique parce qu'il est rectangulaire et les bords, à cette vitesse-là, devraient fondre. Et en plus de ça, il n'y a pas d'aile. il n'y a pas d'hélice.
C'est vrai qu'on ne voit pas d'aile, ça, je suis d'accord avec vous.
Et alors, moi, vous savez quoi, je vais vous dire une chose. Sur un moi, ça me fait, et d'ailleurs, on l'a mentionné dans le chat, ça me fait penser quand même au fameux tic-tac que les Américains voient depuis 2014. Oui. Ces tubes là, qui ressemblent à des tic-tac que l'on mange.
Oui, c'est vrai que ça ressemble aussi à ça.
Voilà, ça ressemble à ça, c'est quand même assez étonnant. Vous me rappelez la période? C'était quand?
Alors, on est en août 2000.
Il était 2002.
2000, quoi?
2002.
Ouais, donc, il y a 20 ans, c'est ça que vous m'avez dit 20 ans tout à l'heure.
Et, mais même moi, si vous voulez, naïvement, parce que moi, je n'y connaissais rien en ufologie, ovni, etc. J'ai d'abord cru que c'était les étages d'une fusée qui se détachait, qui tombait. Or, elle ne tombait pas du tout. Elle se dirigeait de façon très fluide et rectiligne à la même altitude, sans aucun bruit, assez vite, et puis sans, comment dire, sans forme aérodynamique, si vous voulez.
Ouais, alors, ça, le problème, c'est qu'on peut toujours émettre des hypothèses, hein, ça, c'est sûr, que, mais on n'a pas l'explication absolue. Est-ce que, à tout hasard, vous aviez contacté le GEPAN à l'époque?
Mais en fait, c'est le gendarme. Hein. Je vous disais, j'avais appelé immédiatement la gendarmerie en disant « j'ai vu passer une fusée ». Et j'étais un peu moqué de moi. Et puis, ils m'avaient passé, quand je leur avais dit que j'avais une photographie, ils m'ont dit « ah, on va vous passer une cellule spéciale ». Et là, j'avais eu au téléphone un monsieur, peut-être qu'il s'agissait du GEPAN, je ne sais pas, et qui m'avait posé une série d'une vingtaine de questions auxquelles j'avais bien répondu parce que...
Alors, ce qui est quand même très étonnant déjà, quand même, Benoît, c'est que le GEPAN, déjà, il n'est pas dans le bureau d'à côté. Et ce qui est fou, c'est que avant que le GEPAN ouvre une enquête et vous pose plein de questions, il faut déjà les appeler, il faut qu'ils soient là, etc. Surtout que là, c'était le soir, visiblement, c'est ça? Donc, le GEPAN, je ne suis pas sûr qu'il y ait une permanence le soir pour les ovnis, vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'ils vous ont passé quelqu'un qui est au sein de la gendarmerie, était intéressé, peut-être. Et il faut savoir que les gendarmes sont là quand même, doivent consigner. Donc, tout cela, peut-être que voilà, ils vous ont passé ça pour après transmettre au GEPAN.
C'est aussi un haut lieu des ovnis. Enfin, il y a des observations d'ovnis qui sont...
Les montagnes. Voilà, on en reparle tout à l'heure.
Moi, je me souviens que le brigadier que j'ai eu au téléphone m'a dit « Ah, alors, si vous avez une photo, attendez, je vais vous passer quelqu'un d'une brigade spécialisée. Voilà. »
Bien sûr.
Voilà, ensuite, j'ai eu une série d'une vingtaine de questions. Et puis, voilà. Et puis, j'ai envoyé ma photo au GEPAN 10 ans plus tard.
Et alors, ils sont parvenus vers vous?
Non, pas du tout.
C'est quand même un truc, parce que là, on a quand même une photo. Donc, on peut. Ça mérite d'être analysé, parce qu'aujourd'hui, on passe en informatique, on repixelise l'image, et puis on peut voir ce qu'il en est. Alors, il faut des moyens, bien sûr, mais c'est le CNES quand même. Ils ont un peu de gros ours. Voilà.
Alors, moi, ce qu'on voit sur la photo et que je vous ai transmis et qu'on voit à l'écran, je veux dire que c'est exactement ce que j'ai vu. Il n'y a aucune différence. C'est pas un planeur qui passait par là, à côté de l'objet que j'avais vu. Non, non. C'est vraiment cet objet-là que j'ai vu, c'est-à-dire ces proportions-là, ce rectangle qui se promène dans le ciel à toute vitesse et qui ne fait surtout aucun bruit. C'est ça qui m'avait le plus stupéfié, si vous voulez.
Bon, alors après, un avion à 10 000 mètres d'altitude, vous n'entendez pas forcément. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, le bruit, c'est encore une chose qu'on peut mettre à part. Mais non, là, ce qui est le plus étonnant, c'est le côté, c'est la forme.
L'objet.
On voit bien qu'il n'y a pas d'aile et qu'il y a un objet. Écoutez, Benoît, merci. Si jamais vous êtes photographe, si jamais vous avez les moyens d'analyser une photo, si vous avez des moyens techniques, parce qu'il ne suffit pas d'être photographe, mais d'avoir des moyens techniques pour analyser une photo, ben, on serait ravis d'avoir votre aide. Donc 01 86 22 20.
Moyen là, en tout cas, personnellement.
Oui, alors c'est pour ça que je fais un appel, Benoît. Donc si vous qui nous écoutez, vous avez ces moyens-là, n'hésitez pas à nous en faire part. 01 86 22 20 ou redaction@btlv.fr. Merci, Benoît. Je sais que vous étiez en train de faire du sport, vous êtes arrêté pour à nouveau témoigner ce soir et je ne peux que vous en remercier. À bientôt.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
On partira du côté de Périgueux, je crois, dans un instant pour retrouver Véronique. En tout cas, elle a vu un objet volant non identifié à Périgueux qu'elle ne s'explique toujours pas. Avant cela, on va peut-être regarder du côté des réseaux avec Valentin.
Eh bien, ils sont plusieurs, Bob, à avoir réagi par rapport à cette photo que nous a fait parvenir Benoît.
Ah bah oui, là,
il y en a certains qui auraient déjà aussi aperçu ce type de cylindre un peu dans le ciel. On a Chris Solo sur Facebook qui, elle, aurait aperçu la même chose, mais par contre, l'objet qui se déplacerait beaucoup plus vite.
D'accord. Alors, moi, ce qui est vachement bien là, c'est que pour une fois, on a une photo. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, on n'a jamais de photo. Là, il y a une photo, donc c'est tangible, on a pris quelque chose. C'est l'argentique, on ne peut pas dire que c'est le numérique qui a truqué les choses. Ça a été analysé une première fois, visiblement, par des experts sur des forums qui participent à des forums, et elle n'est pas truquée, donc c'est intéressant. Je trouve ça fou que le GEPAN ne revienne pas sur ce type de photo, au moins que le GEPAN prenne la peine d'appeler le mec en disant, écoutez, voilà, on a analysé la photo, c'est pas ça, il se passe rien. Enfin, je trouve ça dingue, moi. C'est quand même un organisme d'État, quand même. Donc,
peu de moyens, tu le sais.
Oui.
T'as vu la série, comment?
Alors, attends, tu prends n'importe quel forfait téléphonique, c'est gratuit. Donc, voilà, t'appelles, tu dis, voilà.
Non, mais je parle en moyen de temps.
Même en temps humain, c'est 10 minutes.
Je leur cherche toujours des excuses.
Moi, le problème, c'est que moi, je veux bien leur trouver des excuses, mais là, t'as quelqu'un qui envoie quelque chose qui
il y a un document
sur lequel on peut s'appuyer. Autre chose.
Puis Amira aussi qui elle dit avoir aperçu plus ou moins la même chose.
Ok. Alors encore une fois, on a besoin de vos témoignages. Alors il n'y a pas que de l'OVNI, hein, bien sûr. Il y a des phénomènes paranormaux, quels qu'ils soient. Vous avez vécu une sortie de corps, un voyage astral, une expérience de mort imminente. Vous avez vécu, vous avez ressenti des choses dans la maison, entendu des bruits, vécu des phénomènes de poltergeist. On a besoin de vos témoignages. C'est ce qui fait toute la beauté de cette émission, et sans jugement, sans censure, mais avec beaucoup de bienveillance. On vous accueille ici, 01 86 22 21 20 ou alors redaction@btlv.fr. C'est important que vous témoigniez, et parce qu'en plus, les mentalités commencent à évoluer. La preuve, les connus face à l'inconnu. Des personnalités telles que Patrick Chesnais, Anne Roumanoff, Nathalie Marquet-Pernot, Mireille Dumas sont venues témoigner de leur contact, de leur expérience avec l'invisible. C'est le cas de Franck Leboeuf. Si vous êtes un peu footballistiquement parlant enclin à aimer l'équipe de France, eh bien sachez qu'il a été champion du monde. Alors je le dis pour les plus jeunes, parce que mine de rien, il y a des 20 ans qu'ils l'ont pas,
qui ont déjà oublié.
Qui ont déjà oublié. Champion du monde 98, Franck Leboeuf, bouddhiste. Et vous allez voir, le mec est génial. Regardez.
Je suis bouddhiste, donc je veux croire à la réincarnation. Mais je suis un petit peu aussi comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Mon papa est décédé en 2004. J'aurais adoré avoir un signe de mon père. Je n'en ai jamais eu. Et ce qui fait penser que pour l'instant, j'en suis pas certain. Je ne veux pas croire qu'on apprend tout ça, qu'on vit tout ça pour rien. Je vois pas, puisqu'on parlait de Dieu, l'importance de ça. J'adore ce livre je crois que c'est Dos Santos qui a écrit La Formule de Dieu. J'adore ce livre. Où en fait, alors je ne vais pas dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais savoir si Dieu existe et s'il existe, pourquoi nous sommes là. Et il y a une vraie réalité à travers un roman sur la preuve de l'existence de Dieu. Je conseille de le lire à tout le monde parce que c'est peut-être la seule explication de notre existence sur Terre. Parce que tout, sinon, s'il n'y a pas de vie après, s'il n'y aurait plus rien qui existe, pourquoi on fait tout ça ?
Les connus face à l'inconnu, Franck Leboeuf, ancien footballeur international et comédien. Effectivement, les questions qui se posent sont les questions que beaucoup se posent. Est-ce qu'il y a un sens à tout cela? Est-ce que finalement, s'il n'y a rien après, à quoi ça sert? Enfin, c'est toutes ces questions philosophiques. Il y revient également, alors qu'il est footballeur, qu'il est en Angleterre, il est blessé, il va avoir un magnétiseur. Et il lui dit un truc de dingue, il n'y croit pas du tout. Mais pas du tout, hein, au moins, il dit. Il remonte dans sa voiture avec le copain qui l'a emmené chez Matizer. Il fait c'est bon, j'ai toujours aussi mal, c'était bidon. Bon, en tout cas, j'ai passé un super moment. On lui annonce partout 6 semaines d'arrêt, etc. Le lendemain, il recourt. Et là, il se dit waouh, waouh, waouh. Il raconte plein d'anecdotes comme ça aux frontières du mystère et de l'inexpliqué. Encore une fois, très belle personnalité qu'est Franck Leboeuf. À venir, Véronique. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur grand écran.
Pour regarder BTLV sur votre télévision, il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr. Rendez-vous sur l'émission de votre choix. Faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez « Caster ». Sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé.
Voilà, la Chromecast, bien sûr, et BTLV en grand. Et alors, Jocelyn est en train de me dire, anecdote et, ou synchronicité, tu es en train de lire le bouquin de Dos Santos.
Oui, je suis en train de le finir.
Ouais, bon, voilà. Voilà.
Très bien, je le recommande d'ailleurs.
Ouais, bah, tu as vu, c'est ce que dit aussi.
Ça s'appelle La Formule de Dieu.
Franck Leboeuf. Très beau. Donc, bah, tu me le prêteras, comme ça je pourrais le lire également, parce que
c'est
je ne l'ai pas lu.
C'est un roman, c'est un essai.
Bah, c'est un beau roman, c'est une belle histoire.
Mais il y a plein de choses très, très intéressantes dedans.
C'est une romance, mesdames, messieurs. Véronique est avec nous, 01 86 22 21 20. Bonsoir, Véronique.
Bonsoir Bob, bonsoir Jocelyn et toute l'équipe.
Ouais, écoutez, je suis ravi de vous accueillir, Véronique. Je vous souhaite une très très belle année. J'espère que elle sera bien meilleure que l'année 2021 et surtout sous d'autres auspices. Bon, là, c'est mal barré visiblement, hein. Mais bon, ça commence pas très bien, mais j'espère que ça ira mieux. Alors, Véronique,
c'est
vous
ce
êtes.
Que l'on souhaite tous. Oui.
Bah oui. Alors, j'ai dit que vous étiez à Périgueux. Est-ce que vous y êtes toujours ou est-ce que vous aviez vu votre objet à Périgueux?
Alors oui, j'avais vu mon objet à Périgueux. Alors. J'y suis toujours, mais entre-temps, je suis partie vivre ailleurs, Paris, Bordeaux.
D'accord.
Mais je suis revenue en Dordogne depuis 13 ans hein, déjà.
D'accord.
Voilà.
Bon,
alors, ça
ne
se passe pas actuellement, mais effectivement, le phénomène... Enfin, je vous laisse parler.
Non, mais on a envie surtout de vous entendre, hein, c'est ce qui est le plus important.
Voilà, mais bon, c'est vrai qu'on avait parlé la dernière fois d'un phénomène lumineux, d'une boule lumineuse, qui avait eu lieu en 1989,
oui.
Et je disais à la fin donc, de mon témoignage qu'effectivement, la même année, j'ai revécu en présence de ma maman donc, un phénomène
mm-hmm.
Alors, différent, hein, puisque là, il apparaissait, on le voyait depuis les fenêtres de la maison,
mm-hmm.
Ça se passait en semaine, un midi où on était rentré à la maison, maman travaillait, bon, on se retrouvait à midi pour déjeuner, comme tous les jours à la maison.
Mmh.
Et après avoir fini notre déjeuner, ma mère m'appelle, Véronique, viens voir, je vois un objet, c'est étrange et c'est stationnaire. Mmh. Donc, je viens, je lui dis, mais c'est incroyable. Je lui dis, j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un objet volant non identifié,
mmh.
Un ovni, parce que on avait déjà vu effectivement des schémas hein, sur... sur une revue qui en parlait. Mais là, c'était flagrant. C'est-à-dire que l'objet à vol d'oiseau n'était pas si loin que ça. Hein. Moi, je dirais à peu près à 500-600 mètres. Pas très loin, en fait. Hein. Même moi. Puisque nous, on est situés sur une petite hauteur et c'était vers la rue Victor Hugo du centre-ville de Périgueux.
Ouais.
Et l'objet en question avait vraiment la forme d'un ballon de rugby, mais très fuselé, très fin, beaucoup plus fin évidemment.
Mmh.
Et ça avait un aspect métallique brillant, fait d'une seule pièce, mais vraiment d'une...
Un seul bloc, quoi.
Un seul bloc, voilà. Il n'y avait rien qui apparaissait d'imperfection. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en prenant les jumelles de la maison, j'ai pu voir qu'il y avait, vous savez, une bande tout autour, qui fait comme des fenêtres,
ouais.
Espacées un peu de la même grandeur.
Ouais.
Et là, je me suis dit, mais on a vraiment forcément affaire à un objet non identifié, c'est pas possible.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous dites qu'il y a des hublots, c'est qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur, parce que sinon, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou des gens, ou des entités. Voilà.
Exactement. Et c'est ce qui m'a frappé. Et qui m'a attirée. Alors, je regardais vraiment dans mes jumelles. Tantôt, j'enlevais les jumelles parce que je voulais vraiment voir tous les détails.
Mmh.
Ce côté métallique très, très brillant et fluide. Et je me suis dit, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Puis alors, un vol stationnaire, nous, on n'a aucun objet chez nous, sur notre planète, qui était capable de faire ce genre de vol stationnaire. Et je me suis dit, j'observais aux jumelles, espérant voir quelque chose qui bouge à travers ces hublots.
Ouais.
Je me suis dit, et si on voyait quelque chose
ouais.
Mais non, en fait, non, c'était opaque. Et tout le temps que j'ai pu observer, je n'ai rien vu. Et dommage, j'étais déçue parce que je me suis dit, mince, ça aurait été magnifique de voir quelque chose, d'avoir un signe. Mais non. Et donc, avec ma mère, on est restés un moment quand même stupéfaite à la regarder. Et en plus, contrairement à Benoît, je n'ai pas eu la chance de pouvoir prendre cet objet en photo. Parce que franchement, ça aurait été extraordinaire. Puis si on avait, à la distance où on était, avec un zoom, ça aurait été superbe. Bon, à l'époque, c'était avec les argentiques, en plus. Et dommage, parce que l'appareil photo de mon père avait subi un choc. Il l'avait sorti lors d'un spectacle de danse auquel j'avais participé. Mmh. Et malheureusement, il n'était plus fonctionnel. Je me suis dit, il fallait bien que ça arrive à ce moment-là. J'étais très déçue. Mais bon, du coup, on a observé. Hein, on en a observé avec les jumelles. et on n'a pas pu voir le moment où cet objet disparaissait, puisque ma mère devait reprendre son boulot. Elle est enseignante et elle devait arriver en avance à son école. Et moi, je repartais de mon côté aussi. Et on était déçus, on s'est dit, mince, on ne va même pas pouvoir assister au départ de cet engin. Et on est parti frustrés, honnêtement, parce qu'on on a pas su, en fait, de quelle manière l'objet partait, en fait. On aurait peut-être pu voir un déplacement peut-être plus lent ou quelque chose de très rapide, tant qu'on s'en aperçoit en définitive, mais on n'a pas pu assister à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment une frustration.
Mais ça veut dire que ça a duré longtemps, alors, quand même, parce que si...
Mais c'était en vol stationnaire, ça devait être là déjà depuis avant notre déjeuner.
Mais il n'y avait personne dans la région, c'est-à-dire que vous êtes les seuls à avoir vu ça?
Alors, oui, bonne question, c'est vrai. Non, écoutez, moi, la seule chose que ma mère a vue dans le journal le lendemain, le Sud-Ouest, c'est qu'il y avait eu des perturbations radio au-dessus de la ville de Périgueux. Mmh. Uniquement ça, hein, des perturbations électriques. Mais pas, ça ne parlait pas de vision d'un objet volant, par contre. Voilà.
Alors, c'est marrant, quand vous parlez des hublots, là, parce que ça me rappelle l'OVNI de Kumbergaz, tu sais, en Turquie, vidéo qui a été nettoyée, qui a été authentifiée, hein, parce que par là, pour le coup, des gens, des spécialistes de la vidéo et de la photo ont analysé tout cela. Et effectivement, c'était en Turquie, vol stationnaire également, objet qui semble être triangulaire. Et à l'intérieur, on voit deux têtes d'aliens. Alors là, pour le coup, on voit vraiment des aliens. C'est fou, quoi. Parce que là, les gens ont compris la photo. C'était un gardien de nuit, d'ailleurs, qui gardait une résidence. Mm-hmm. Et qui, lui, après, il venait d'avoir un appareil photo, d'ailleurs. Donc, une vidéo. Et en fait, il a pris cette vidéo.
La forme de l'objet en ballon de rugby, avec effectivement une sorte de hublot là, tout autour. Ouais. C'est assez classique. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup d'observations. Alors, pas à Valensole ou à Socorro, il n'y avait pas de hublot, à ma connaissance. Ouais. Mais enfin, en tout cas, pas comme ça, on va dire. Mais dans d'autres histoires, oui.
Bah, c'est un beau dossier inexpliqué, hein, Socorro, hein, d'ailleurs, qu'on avait fait avec Jocelyn sur btlv.fr.
Vous étiez là.
Bon, bah, écoutez, en tout cas, très joli témoignage, parce que moi, ce que j'aime dans celui-ci, c'est qu'il dure longtemps. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est furtif.
Il est resté un bon moment, oui, effectivement. Ouais. Puis ce côté lisse et brillant de ce qui paraît être du métal, c'est magique. On ne le voit jamais.
Et quand vous l'aviez en visu dans les jumelles, là, vous l'avez vu bien, tout près.
Ah, c'était très net, vraiment très net. C'est pour ça que je regrettais de ne pas avoir l'appareil fonctionnel qui avait un zoom, malheureusement, et j'aurais pu vraiment prendre quelque chose d'intéressant. Et je me suis dit, mince, parce qu'effectivement, cette photo, je l'aurais fait parvenir au GEPAN.
Oui.
Je me suis dit, là, par contre, ça valait le coup de les prévenir et d'envoyer une photo.
Et quand vous avez cet objet dans les jumelles, il n'y a pas d'inscription dessus, une inscription, il n'y a rien de marqué, il n'y a pas un drapeau.
Non, je ne voyais rien. C'était vraiment lisse d'un seul bloc, ce métal brillant et avec cette bande autour de hublot. Je n'ai rien vu d'autre. Non. Surtout que je l'ai noté, hein, j'avais noté les détails de ce que je vois en général. Et c'était vraiment sans inscription. Ou alors, il aurait fallu vraiment s'approcher de très près pour voir davantage. Mais c'était fascinant. On pouvait être que subjugué de voir ça.
Bah oui, c'est sûr.
Voilà.
C'est sûr. Voilà. Bah écoutez, belle observation et joli témoignage que vous nous avez fait là, Véronique. Merci
avec
en tout
plaisir.
Cas d'avoir été avec nous ce soir du côté de Périgueux. On vous souhaite une très très belle année 2022 et prenez soin de vous.
Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
BTLV, c'est, vous le savez, de nombreux intervenants réguliers. Et parmi eux, il y a Jocelyn, il y a Egon et il y a David Gallet, les Mystères de France. Et il vous propose un nouveau numéro. C'est dispo sur btlv.fr.
Une balade extraordinaire en Lorraine du côté de Lunéville, c'est ce que je vous propose dans ce nouveau numéro des Mystères de France. Préparez-vous à croiser des fantômes, des pyromanes et des nains jaunes. Rendez-vous en ce moment sur BTLV dans les Mystères de France.
Et je suis ravi qu'on parle des châteaux de Lunéville, parce qu'on avait fait une émission, Jocelyn, sur le château de Lunéville, avec bien sûr tous ces incendies.
Les incendies mystérieux et le fameux nain jaune dont parle David.
Exactement. Mais il y a un autre château à côté, pas loin, et vous verrez que là aussi, il se passe de drôles de choses, et notamment avec un roman. Enfin bon, c'est assez, assez fou, beau numéro des Mystères de France. Valentin.
Eh bien, sur les réseaux sociaux, c'est assez calme. Alors, forcément, comme à chaque fois, on parle de tout. Mais sinon, peu ont réagi pour le moment par rapport à cette observation qu'avait pu faire Véronique. Mais voilà, ce qu'il en est.
Ok, c'est ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. On arrive au terme de cette libre antenne. Merci Jocelyn d'avoir été avec nous. Merci Valentin, merci Mathis d'avoir préparé et d'avoir réalisé cette libre antenne. Regardez ce qui vous attend quand même. Le prochain direct, c'est mercredi 19h. Je serai aux côtés de Christelle Thirion, Jeanne Boudra et Mathias Leboeuf, et d'Anton Parks, bien sûr. Valentin sera avec nous aussi pour les réseaux. La théorie des anciens astronautes tient-elle la route ? Anton Parks, donc pour des raisons sanitaires, sera en direct de chez lui, mais ce sera notre grand témoin. Merci d'avoir été avec nous. Partagez cette émission sur les réseaux sociaux. Elle est gratuite, elle est pour vous, elle est en clair. Donc c'est l'occasion de nous aider à nous faire connaître. Donc partagez-la. Mettez des étoiles également sur Facebook ou des pouces bleus sur YouTube. On vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien. Salut.